Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les échos de l'innovation pour parler construction, durabilité et futur dans le cadre du cours de sciences et débats publics de l'Université technologique de Compiègne. On parlera de ce sujet aujourd'hui avec Jeanne, Elliot, Félix et moi-même Luna. Bonjour à tous.
Salut.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au développement de nos villes, autant sur le point des innovations que sur la question environnementale et durable. On va donc aborder plusieurs définitions de ce que nous appelons nos villes du futur.
Et oui, on est tous d'accord, la ville du futur fait rêver. D'ici à une trentaine d'années, comment vivrons-nous? Les espaces urbains auront-ils réussi à muter pour atteindre une alchimie parfaite avec l'environnement? Les politiques urbaines intégreront-elles des dimensions sociales et environnementales en constante évolution? Autant de questions dont la réponse nous parviendra certainement avec le temps, mais auxquelles nous pouvons nous-mêmes essayer de répondre dès maintenant. Nombreux sont déjà les architectes et les urbanistes imaginant d'ailleurs la ville du futur de 2050.
Avant de commencer cette émission, nous avons trouvé intéressant de demander l'avis des Français sur la question des villes du futur. D'après eux, seront-elles pleines de technologies et de robots? Ou à l'inverse, ressembleront-elles plutôt aux villes dans le passé, basées sur les low-tech? D'ailleurs, petit rappel, les low-tech sont des technologies qui sont simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables. Elles sont ancrées dans le principe de l'économie circulaire.
J'imagine par exemple des services qui fonctionneraient H24, ou comme ça peut être le cas dans certaines villes, où on peut aller faire ses courses à minuit, à 1h du matin, le dimanche. J'imagine peut-être un système comme dans le cinquième élément, avec des voitures volantes pour désengorger les routes.
Pour moi, une ville du futur, c'est une ville où on s'est débarrassé des automobiles et de construire tout l'environnement urbain autour des automobiles. Donc en priorisant les transports en commun, les bus, les petits vélos, les petits tramways, etc. J'ai pas d'autre idée.
Pour moi, les villes du futur, c'est des villes plus vertes, avec des jardins partagés au bas des immeubles, avec des potagers pour les habitants et une possibilité de mettre du compost. C'est aussi des espaces partagés de buanderie, avec des machines à laver et sèche-linge collectif. Sur les toits, je vois bien des panneaux solaires avec des ruches et puis aussi des immeubles peut-être moins hauts qu'aujourd'hui pour laisser plus d'espace respirable dans la ville.
Pour moi, la ville du futur, c'est une ville où on utilisera beaucoup plus l'écologie et les énergies vertes, les énergies renouvelables. On passera outre le pétrole. Et avec beaucoup plus de transports en commun, moins de voitures personnelles.
La ville du futur, pour moi, elle sera végétalisée, digitalisée, électrifiée et bétonnée de plus en plus des bâtiments hauts pour gagner de l'espace en hauteur.
Moi, la ville du futur, elle a des transports en commun qui sont électriques, que électriques, c'est-à-dire tous les trams, les bus, tout marche en électrique, et on aura des taxis, des drones qui transporteront des gens d'un endroit à l'autre. Et j'espère qu'on aura des villes très propres, beaucoup plus propres qu'aujourd'hui.
Aussi mettre en place un système de taxi collectif où quand on veut prendre un taxi, bah au lieu de demander un taxi individuel, bah on va dire je veux aller de là à là et j'accepte d'avoir trois arrêts. Pour faciliter le déplacement des piétons sur les trottoirs, notamment dans les avenues larges, les piétons qui peuvent être chargés de valises, de bagages, ou des piétons qui ont du mal à se déplacer, je verrais bien des tapis roulants, comme cela existe par exemple dans certaines stations de métro ou dans les aéroports.
Alors, on vient d'écouter un micro-trottoir. Alors, est-ce que vous avez été d'accord avec ce qui a été dit? Et d'après vous, comment est-ce qu'elle se présenterait, la ville du futur?
Alors, personnellement, globalement, j'étais d'accord avec ce qui a été dit, mais il me semble qu'il y a un monsieur, à un moment donné, qui a évoqué une idée sur laquelle je ne suis absolument pas d'accord, qui est de construire en hauteur, et où il disait que pour lui, ça serait pour gagner de la place. Et justement, moi, je pense que dans la ville du futur, dans ce que je m'imagine un petit peu dans mon imagination de petite fille, ça serait vraiment des villes qui s'étalent sur une énorme surface et vraiment pas des hauts bâtiments. parce que dans ma tête, les hauts bâtiments, ça fait très vite quartier d'affaires et pas un quartier chaleureux. Donc moi, sur ça, je suis vraiment pas d'accord, ou dans mon imagination, j'espère me dire que les villes, elles seront juste extrêmement vastes et que les maisons, elles feront un petit peu toutes la même taille, mais sans être trop grandes, parce que je sais pas, je trouve ça plus chaleureux.
Bah, c'est vrai que les avis sont différents sur ça, parce qu'on a entendu plusieurs personnes. Il y en a une qui pense que bah, justement les bâtiments seront plus hauts, l'autre qui seront beaucoup plus bas. Donc c'est pas évident, je trouve, de se positionner là-dessus et de voir vraiment où ça va aller. Après, moi, je pense que c'est pas sûr que toutes les nouvelles technologies, elles envahissent les villes. Par exemple, je pense pas qu'on va voir nos villes équipées de caméras reconnaissance faciale à chaque coin de rue, ou qu'il y ait une lutte préventive contre le crime, comme dans Minority Report de Spielberg. Je sais pas, je suis pas sûr de voir non plus des robots circuler dans les rues. On a la personne qui nous disait qu'elle voyait des drones faire des livraisons, ce genre de choses. Je pense pas. Je pense que j'imagine plutôt une ville où la préservation de l'environnement et le bien-être citoyen en serait le cœur. Et oui, alors je suis d'accord par contre avec les espaces verts et des murs végétalisés, pourquoi pas, pour lutter contre le réchauffement. Des éclairages économes en énergie, par exemple alimentés par des panneaux photovoltaïques, je trouve que c'était une bonne idée. Il y avait cette idée, on entendait la personne parler des ruches aussi sur les toits. Mmh, oui. Je trouvais que c'était assez intéressant, et c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout pensé à ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, c'est vrai que j'avais vu ça un petit peu aussi comme ça, avec tout le monde qui... Enfin, il faudrait en fait optimiser un petit peu toutes nos ressources. Et donc, notamment, ça voudrait dire faire en sorte que les bâtiments se suffisent à eux-mêmes, que les habitants se suffisent à eux-mêmes dans leur consommation, c'est-à-dire mettre probablement des panneaux photovoltaïques sur les immeubles, des éoliennes, voire des potagers justement à partager. Mais par contre, je suis pas du tout d'accord avec Luna sur le fait qu'elle pense pas que ça va s'élever. Moi, j'étais plutôt d'accord avec le monsieur. Je pense que justement, les souterrains, ils sont déjà un petit peu utilisés avec les métros, etc. Et donc, je pense que on va surtout aller plus haut. Tout va plutôt s'élever. Et en plus, on sait que les gens se déplacent vers les villes depuis un bon bout de temps, et donc il va commencer à manquer de place. Et donc je pense que les immeubles vont commencer à devenir plus hauts, et je pense aussi que les moyens de transport vont devenir plus hauts. J'imagine bien, je pense que c'est un petit peu utopique et c'est un petit peu la personne qui aime la science-fiction qui parle, mais j'imagine bien des tubes peut-être à 20 mètres de haut au-dessus de la circulation piétonne, avec des transports en commun, quelque chose comme des trams qui aillent extrêmement vite et qui parcourent toute la ville et qui du coup ne dérangent pas la circulation en étant au-dessus.
Ouais.
Quelque chose comme ça, et quelque chose de très vert, oui.
Je suis assez d'accord sur quelque chose qui se construit en hauteur, dans le sens où on voit déjà les grandes villes actuelles, que ce soit les plus récentes en tout cas, que ce soit Dubaï, ce genre de villes qui sont construites extrêmement hautes, avec des grands immeubles. Moi, je pense qu'un des objectifs de la ville du futur, ça va être de mettre le plus de population au kilomètre carré, donc soit en réduisant... Les libertés, enfin l'espace personnel et le confort, mais du coup au profit du nombre de personnes qu'on peut emmagasiner au sein d'un même espace, parce que évidemment les gens vont continuer à affluer, et forcément moi j'imagine pas vraiment une ville, je suis plus dans l'idée où on va continuer à vouloir faire plus grand, plus haut, mais je sais pas si l'idée d'écologie va forcément être alliée à ça. Dans le sens où forcément c'est pas forcément des objectifs qui vont ensemble, ou là où le vert a besoin de beaucoup d'espace forcément.
Ouais. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais Elliot, où il me semble que tu as dit que tu imaginais pas vraiment des robots qui allaient envahir nos villes. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques temps de ça, il y a peut-être quelques semaines, il y a eu des vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux où il y avait des robots livreurs aux États-Unis.
C'était des drones, non? C'est pas ça?
Alors moi, j'ai la vidéo des robots livreurs où ils ont des roues. Et en gros, ils ont comme les espèces de sacs de livraison qu'on a ici en France, ouais. Mais juste sur des roues. Et le robot livreur se baladait tout seul dans les rues de je ne sais quel état aux États-Unis. Et en fait, sur le coup, je trouve ça très impressionnant juste de voir un phénomène comme ça se bouger tout seul. Mais donc, c'est pour ça que je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que je pense que ce n'est pas impossible que les robots prennent le dessus, notamment pour des choses aussi automatisables, on va dire, que ça, quoi.
Ouais, c'est vrai. Je voyais moins la chose, si tu veux, sur l'aspect volant, en fait. C'est-à-dire le fait qu'ils fassent les livraisons en passant d'un endroit à l'autre, vraiment par la voie désert.
Oui.
Ça, j'étais moins persuadé pour le coup. Bon, alors maintenant, après avoir sondé... Après avoir sondé l'opinion de la population, nous allons nous pencher et présenter une réponse dite plus scientifique sur la définition et l'idée de la ville du futur. Comme nous avons déjà pu l'évoquer précédemment, la définition des villes du futur peut varier d'une personne à l'autre, selon son imagination ainsi que ses convictions. C'est pour cela que nous allons présenter plusieurs aspects différents, pas forcément compatibles entre eux, mais correspondant à différentes définitions de la ville du futur.
Donc on est sur Graphite avec les écoles d'innovation et on va commencer par parler des villes intelligentes. Donc ces villes sont conçues pour utiliser les technologies de l'information et de la communication afin de gérer de manière efficace les ressources et les services urbains, tels que l'énergie, l'eau, les déchets, les transports, etc. Ces villes vont donc être basées plutôt sur les high-tech, donc qui s'opposent aux low-tech dont nous venons de parler précédemment. Elles seraient par exemple constituées d'infrastructures connectées, comme des réseaux de communication sophistiqués, qui permettent à ces infrastructures de communiquer entre elles et avec les citoyens.
Et est-ce que tu savais, Jeanne, aussi que ces villes intelligentes peuvent également inclure des capteurs pour surveiller la qualité de l'air, la consommation d'énergie et même la circulation routière, afin d'inclure également la question environnementale ? Ces villes seraient également dotées de systèmes informatiques, de récolte de données en temps réel, pour prendre des décisions éclairées et optimiser les services urbains. Ces données peuvent être recueillies soit par des capteurs, des caméras de surveillance ou même des applications mobiles.
Les villes intelligentes possèdent également des solutions de mobilité intelligentes, telles que des transports en commun électriques, des voitures autonomes et des systèmes de partage de vélos. Ces solutions permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faciliter les déplacements des résidents. Pour continuer sur la même lancée orientée développement durable, les villes intelligentes seront dotées d'une gestion durable des ressources grâce à des technologies pour optimiser leur utilisation, telles que l'eau, l'énergie et les déchets. Elles encouragent également l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour réduire l'impact environnemental sur les villes.
Et pour finir, la dernière caractéristique des villes intelligentes du futur est la participation citoyenne. En effet, les scientifiques imaginent une ville dans laquelle la participation des citoyens sera de mise et la gestion de la ville reposera sur l'utilisation de plateformes de participation en ligne et des applications mobiles pour recueillir les commentaires et les idées des résidents. Alors, après cette première présentation des villes donc dites intelligentes, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi personnellement, j'aime bien l'idée. C'est très futuriste et j'ai l'impression que c'est un peu dans l'imaginaire collectif de ce que les gens pourraient penser d'une ville du futur. Mais après, je doute que ce soit vraiment réalisable ou même viable sur plusieurs points. Sur le point de cette ultra technologie où absolument tout est automatisé, tout est innové, tout est à la pointe de la technologie, j'ai un petit doute sur ça. Et pareil sur la question de la participation citoyenne, de tout ce qui va reposer sur la collaboration. Après, c'est peut-être parce que de notre société actuelle, ce n'est pas vraiment le cas. Mais je doute que dans le futur, on change à ce point l'état d'esprit des personnes et qu'on soit vraiment sur voilà, les plateformes de participation, que tout le monde participe à une même activité, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un petit doute sur... Le possible futur d'une ville comme ça.
Bah, c'est vrai que sur la participation, je trouve que c'est une bonne idée de récolter les avis des citoyens. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les résidents de la ville, mais il y a aussi les gens qui passent par la ville, donc qui travaillent dans ces villes. Et je pense que souvent, on les ignore un petit peu, alors qu'on devrait un petit peu plus prendre leur avis en considération. Après, est-ce qu'on est sûr que tout le monde voudra voter et participer ? Ce n'est pas évident, et surtout dès que c'est des formulaires électroniques, par exemple. Je trouve que, par exemple, pour nos grands-parents ou les personnes âgées, c'est un peu plus délicat de les faire adhérer à ce concept.
Ah, bah pour le coup, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Là, on parle vraiment d'une ville, on parle en tout cas de ville du futur. Et on sait tous que maintenant, toutes les personnes, presque, ou du moins presque toutes les personnes de 0 à 60 ans, savent très bien utiliser la technologie de base. Et donc, dans 30 ans, ils sauront toujours le faire. Et donc, je ne vois pas où est-ce que serait le problème. Surtout qu'on va continuer à évoluer là-dedans et à tous grandir avec. Donc je pense que ça posera vraiment pas de soucis. Et je pense que c'est le type de ville, pour moi en tout cas, qui serait la meilleure, puisqu'elle prend en compte les problèmes environnementaux tout en garantissant quand même notre style de vie. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu utopique et difficile à mettre en place. sauf si on recommence entièrement une ville.
Bah, en soi, je suis assez d'accord dans le sens où il faut laisser la vie aux citoyens, tout ça. Mais moi, il y a autre chose qui me dérange, c'est laisser trop la gouvernance de la ville au système informatique, aux récoltes de données, tout ça. Je trouve qu'au niveau sécuritaire, il pourrait y avoir pas mal de soucis. Disons que s'il y a des gens mal intentionnés qui décident qui arrivent à entrer dans le système et à forcément tout détruire, bah, ça va entraîner des catastrophes énormes dans le sens où le système d'électricité va plus être tenu, plus être entretenu. En fait, il y aura plein de problèmes d'entretien, quoi. Mais par contre, forcément, l'idée de faire le collectif et décider de façon collective des pistes à suivre, ça, c'est effectivement une bonne idée.
C'est vrai qu'il faudra faire vraiment attention à ce que toutes ces nouvelles technologies soient vraiment sécuritaires et qu'elles ne puissent pas être hackées aussi facilement qu'aujourd'hui.
Ouais, bah justement, on en avait parlé la semaine dernière dans un de nos cours où y a des personnes qui ont essayé d'animer un débat et de demander l'avis un petit peu aux étudiants qui étaient présents dans la salle sur si oui ou non dans le futur, ils accepteraient d'être un petit peu observé et puis que tout soit un peu vérifié, tout soit sous contrôle avec notamment des caméras de surveillance, de la reconnaissance faciale, etc. Et c'est vrai que malgré le fait que on est tous étudiants, donc d'une génération assez jeune, la majorité des étudiants étaient quand même de l'avis de dire qu'ils n'accepteraient pas d'avoir autant d'observations, etc. autour d'eux. Donc oui, je suis d'accord que je pense que dans ces villes intelligentes, c'est ça qui va poser un petit peu problème.
Et c'est vrai que les avis divergeaient complètement dans ce cours. Moi, quand on a fait plusieurs groupes, il y en a certains qui étaient « Ah bah oui, c'est une super bonne idée », et d'autres « Ah non, pas du tout, on n'a pas du tout envie de mettre la reconnaissance faciale ». Et je me rappelle qu'il y avait un qui avait une raison, c'était « Bah si t'as rien à te reprocher, en fait, il n'y a pas de souci d'avoir une reconnaissance faciale ». J'ai trouvé ça marrant.
Donc on est toujours dans les échos de l'innovation, on est 4 étudiants de l'UTC. Donc maintenant on passe à un deuxième type de ville du futur, imaginée par des scientifiques, qui sont dites les villes inclusives. Donc ces villes sont conçues pour favoriser l'inclusion sociale et économique de tous les résidents, en offrant des services d'opportunités équitables. Elles cherchent à réduire les inégalités et à promouvoir la diversité culturelle. Les villes du futur inclusives seraient conçues pour être accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées ou aux personnes âgées et aux enfants. Elles offrent des infrastructures adaptées, des espaces publics et des transports en commun accessibles.
Les villes du futur inclusives célébreraient également la diversité culturelle de leur communauté et promouveraient la compréhension interculturelle. Elles offriraient des événements culturels et artistiques qui reflètent la diversité de la population locale. Et une autre caractéristique des villes du futur inclusives serait de chercher à réduire les inégalités économiques en offrant des opportunités d'emploi équitables, en soutenant les entrepreneurs locaux et en offrant des services sociaux de base pour tous les résidents.
On remarquera d'ailleurs que ces villes présentent une certaine similitude avec les villes intelligentes dont nous venons de parler juste avant. En encourageant la participation communautaire dans la prise de décision urbaine et la planification de la ville, elles offriraient des plateformes de participation citoyenne pour encourager les résidents à contribuer à la vie de leur communauté. Et enfin, les villes du futur inclusives cherchent à créer des environnements sûrs pour tous les résidents, notamment en investissant dans la sécurité publique, la prévention de la violence et la protection des droits de l'homme. Et cette ville-là, vous en pensez quoi ?
Bah, moi, je pense que c'est assez intéressant d'insister autant sur l'aspect d'accessibilité et d'inclusion, mais je pense pas que ce soit le point principal autour duquel la ville du futur se concentrera, en fait. Évidemment, c'est important que tout le monde puisse se déplacer, puisse avoir accès aux services de base, mais pour moi, la ville du futur ne sera pas forcément une ville sociale. Ça reviendrait à repenser énormément de points de l'économie et de points du développement des villes actuelles, quoi.
Oui, moi je suis d'accord avec toi, Félix, dans le sens où je pense que c'est les éléments qui ont été cités, c'est super important dans notre ville du futur, mais après je pense pas que ce soit des caractéristiques principales qui vont définir notre ville du futur. Ça va être des caractéristiques qui seront nécessaires, et moi personnellement j'encouragerais le fait d'avoir ces caractéristiques dans notre ville du futur, mais je pense pas que ce soit la vraie identité seulement. Donc peut-être mêler ces caractéristiques à des caractéristiques d'une autre ville du futur, ça serait intéressant, mais c'est vrai que je pense pas que ce sera uniquement ce qu'on vient de citer juste ici.
Non, ça c'est sûr. Après, je pense que niveau accessibilité, on a beaucoup de progrès à faire. Si tu prends une ville comme Paris, qui est quand même une des plus grandes villes au monde, Par exemple, les métros, ils sont toujours inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Et encourager l'économie locale dans les villes, ça va plutôt dans le bon sens pour moi.
Je pense qu'on a un peu tous le même avis là-dessus, pour le coup. Je ne vois pas vraiment une ville uniquement focalisée sur ça. Je pense que c'est quelque chose quand même de très important. Mais c'est vrai que ça devrait plutôt être une préoccupation importante dans chaque type de ville et pas un seul type de ville à lui-même. Ouais. En plus, au niveau politique, je ne vois pas trop comment en France cela va marcher, au vu de comment nous sommes en retard par rapport aux autres pays là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait d'abord, pour faire changer ça, plutôt faire changer les mentalités des gens. Donc on va maintenant passer au troisième type de ville du futur, qui sont dites les villes créatives. Même si le nom ne paraît pas très futuriste, elles le sont. Ce sont donc des villes conçues pour encourager la créativité et l'innovation dans tous les domaines, en offrant des espaces de travail et de collaboration, des événements culturels et artistiques, mais aussi des programmes d'éducation et de formation.
Ces villes contiendraient tout d'abord des espaces de travail et de collaboration pour les entrepreneurs, les travailleurs indépendants et les start-up. Ces espaces seraient équipés de technologies avancées pour faciliter la collaboration et l'innovation. La vie dans cette ville du futur serait rythmée par des événements culturels et artistiques pour stimuler la créativité et l'expression artistique. Ces événements attireraient des artistes et des créatifs du monde entier et créeraient des opportunités pour les entreprises locales.
Et est-ce que vous savez que ces villes créatives proposeraient également des programmes d'éducation et de formation pour les enfants et les adultes en mettant l'accent sur les compétences créatives et entrepreneuriales ? Ces programmes seraient conçus pour préparer les citoyens à un monde en constante évolution et encourager l'innovation. Et enfin, dernier petit point, les villes créatives seraient composées d'infrastructures adaptées pour soutenir les activités créatives telles que des studios d'enregistrement, des salles de spectacle, des galeries d'art et même des centres de conception, le tout pour encourager les collaborations et la créativité. À cela vont s'ajouter des politiques et des investissements qui vont encourager la créativité et l'innovation, tels que des subventions pour des start-up, des réductions d'impôts pour les entreprises créatives ou même des partenariats publics-privés pour soutenir les initiatives créatives. Et donc, sur ce modèle-là, vous en pensez quoi, vous ?
Alors, c'est peut-être une bonne idée pour des petites villes. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait accroître clairement leur attractivité. J'y crois moins sur des grosses villes, parce qu'à mon avis, elles ont déjà un catalogue culturel de divertissement qui est assez large. Mais je ne sais pas. Je pense que pour les petites villes, c'est vraiment une bonne idée et ça va dans le bon sens.
Alors, moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec cette idée parce que je pense que la créativité et même le côté artistique, ça va dépendre à chaque personne. Pour moi, c'est plus du ressort, du loisir. Si on aime être créatif, si on a de l'imagination, qu'on a envie de créer quelque chose avec ses mains, que ce soit de la peinture, de la musique, de la danse ou autre chose, c'est plus du ressort du loisir. Et donc, pour moi, de créer une ville spécialement autour de ça, j'ai peur que les personnes qui, de nature, ne soient pas vraiment focalisées là-dessus ou qui n'estiment pas que voilà, les activités créatives et artistiques, ce n'est pas quelque chose qui les passionne. J'ai peur que ces personnes se sentent délaissées ou sinon se forcent à aimer ce genre d'activité. Donc j'ai peur que le fait que voilà, ce soit plus du ressort, du loisir et personnel un petit peu à tout le monde, ce ne soit pas compatible avec le fait d'en faire tout simplement un modèle de ville du futur un peu générique, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où je vois pas comment... Enfin, je trouve ça un peu bizarre d'en faire un type de ville, dans le sens où une ville serait pour argument principal d'être créative. Comment une ville constituée uniquement de créativité, d'invention, pourrait être une ville sans problème ? En fait, on peut pas créer une ville qui tourne autour de ça sans penser d'abord aux infrastructures et aux simples services de base, en fait. C'est un point important, évidemment, de pouvoir développer l'imagination et la créativité et de donner sa chance aux entrepreneuriats et aux petites entreprises. Mais je pense pas que ce soit la façon de faire pour la ville du futur, mais c'est une bonne façon pour repenser le travail et l'éducation, et c'est clairement quelque chose qu'il va falloir faire dans le futur.
Alors, c'est vrai que moi aussi, j'étais très sceptique à la base, puisque comme l'ont dit mes collègues, je ne vois pas trop comment ça marcherait dans une grosse ville. Et puis, on ne peut pas tous être entrepreneurs, sinon rien ne marcherait vraiment. Mais en même temps, c'est vrai qu'en ce moment, avec l'arrivée de plus en plus conséquente des IA et de la technologie, je me pose personnellement la question sur quels effets ça va avoir sur notre créativité. On se rend bien compte qu'avec la technologie, on est beaucoup moins dégourdi et que... Si on veut savoir quelque chose ou faire des recherches, plus besoin de se bouger, il suffit de regarder sur Internet, de rechercher. Et de même, si on cherche du divertissement, pas besoin de faire quoi que ce soit, il suffit d'ouvrir son téléphone. Donc pour garder des humains capables et qui apprécient innover, je pense que c'est important quand même d'encourager cette créativité.
Ah, moi, je te rejoins là-dessus, c'est important de l'encourager, mais... Dans ce cas-là, je pense qu'il va falloir plutôt laisser le choix en disant voilà des choses qu'on vous met à disposition, mais derrière, on met aussi des infrastructures ou des aides, comme on a cité, des aides financières. On peut mettre des aides financières et des infrastructures à disposition pour des personnes dans d'autres domaines qui vont être différents de la créativité et l'artistique pour que du coup, tout le monde y trouve un petit peu son compte et que ce ne soit pas seulement... focaliser là-dedans, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt dans cette direction.
Je suis complètement d'accord. Et puis surtout, je vois pas maintenant comment est-ce qu'on verrait pour que ce soit une... Pourquoi maintenant, ce serait une ville du futur et pas plutôt une ville du présent avec tous les entrepreneurs aujourd'hui.
C'est ça.
Bah, c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce que y a déjà une offre, on l'a dit, culturelle, divertissement, mais je pense même à des festivals ou à des manifestations style des compétitions de tennis ou des matchs de foot, ce genre de choses. On a déjà une offre qui aujourd'hui est énorme, en fait. Finalement, il suffit de faire deux clics sur Internet pour voir tout ce qu'il y a chaque jour et c'est vrai que c'est assez dense. Donc je pense pas que ce soit vraiment... il faudrait imaginer une ville où c'est ça tout le temps, en fait. Tu vois,
bizarre quand même.
Où en fait, il n'y a que de l'imagination tout le temps et c'est comme si on était dans un festival permanent. C'est assez bizarre comme ville du futur.
Ouais, ce serait une ville en pleine fête en permanence. Ce serait en plein festival. Ouais, ce serait assez bizarre de promouvoir la créativité en permanence. Là où je te rejoins un peu moins, c'est quand tu dis que la technologie nous rend beaucoup moins dégourdis. Bah, ok, pour faire des recherches, c'est vrai que c'est plus simple. À l'époque, avant, on allait à la bibliothèque pour faire des recherches. C'est juste un moyen plus facile, un outil qui nous aide à faire nos recherches. Mais je pense pas que ce soit un frein forcément à la créativité et à l'innovation.
Je pense que je reste plutôt sur ma position. Je crois que j'ai vu une étude qui dit que le QI a commencé à redescendre dans les années 2000. Donc je pense qu'on peut quand même rapprocher ça du moment où tout le monde a commencé à utiliser les technologies.
Après, je pense que sur ce sujet-là, il y a deux équipes, deux teams de personnes qui ont des pensées un peu différentes sur le sujet. Mais oui, voilà.
Alors, dans la continuité de la présentation des différents types de villes du futur, on passe au quatrième type qui sont les villes résilientes. Elles sont conçues pour faire face aux défis liés à la sécurité, à la santé et à la résilience des infrastructures urbaines. Elles mettent en place des mesures de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles et aux crises sanitaires. Ces villes commenceraient par densifier l'offre des logements, même si plein de gens ont commencé à se tourner vers les campagnes après la crise sanitaire, il y a toujours plus de personnes qui s'installent dans les villes. Pour éviter un étalement urbain, il faudrait donc créer de plus en plus de logements.
D'ailleurs, les villes résilientes valoriseraient aussi et surtout les espaces végétalisés. Parce que avec le réchauffement urbain, qui est quand même un problème primordial, les espaces verts sont et restent la meilleure solution. La ville de Lyon, par exemple, estime que les arbres contribueront à ombrager et à rendre plus agréables les rues commerçantes pour les passants et les riverains lors des fortes chaleurs. Les villes résilientes auront aussi pour objectif de réduire les consommations énergétiques avec des bâtiments neutres sur leur empreinte carbone. Et une autre amélioration concerne le rendement du réseau potable. On estime aujourd'hui à 1/5 les pertes de l'eau produites à cause des canalisations qui sont trop vieilles et qui finissent par fuir. Et enfin, les villes résilientes auront pour but de diversifier l'offre de mobilité pour moins se déplacer en voiture. Parce que c'est vrai que les déplacements en voiture, on le sait tous, ça entraîne quand même une pollution conséquente en termes sonores et atmosphériques. Il faut donc réussir à trouver le juste milieu entre le fait d'augmenter les solutions de mobilité, mais ce sans détériorer la qualité de vie des habitants. Bon, ce type de ville, c'est un beau projet, mais qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ?
C'est vrai qu'avoir un plan de réponse en cas d'accident, pourquoi pas, tu vois, s'il y a une inondation, ce genre de choses, que la ville soit déjà prête à intervenir, c'est super. Maintenant, moins se déplacer en voiture sans trouver d'alternative, ça paraît un peu irréalisable, je trouve. Je pense que tout le monde, en tout cas, tout le monde a besoin de sa voiture. Alors, c'est peut-être moins le cas dans les grandes villes, on s'en rend un petit peu moins compte parce que tout est généralement bien fait au niveau de la circulation, que ce soit en bus, en tram, en métro, etc. Mais quand on est dans des plus petites villes, c'est carrément moins le cas.
Ouais, justement, j'ai un peu peur aussi, je te rejoins là-dessus, Elliot, en me disant, voilà, les villes qui vont être résilientes vont peut-être trop se baser sur les low-tech, mais sans vraiment donner d'alternative à la population, et que du coup le changement soit un petit peu trop radical, où on passe du tout au tout. J'avais l'impression que sur les exemples d'avant, on avait cette dimension environnementale qui rentrait en jeu, mais qui se faisait équilibrer par des nouvelles innovations ou des nouvelles technologies qui allaient pouvoir équilibrer un petit peu. Alors que là, ici, pour les villes résilientes, j'ai vraiment l'impression que c'est seulement le côté environnemental, et que dans ce cas-là, on ne va pas essayer de trouver des alternatives un petit peu technologiques qui soient peut-être moins polluantes, mais qui pourraient, par exemple, remplacer le fait qu'on n'utilise plus du tout la voiture.
Bah, c'est vrai que je pense que c'est un peu ce qui va être le problème, mais en même temps le truc où il va falloir qu'on trouve des solutions pour ces villes résilientes, c'est justement des solutions de mobilité pour du coup que le problème de la voiture, on ne le trouve pas. Et c'est vrai que quand même dans les grosses villes, c'est vrai que pour les petites villes, je peux comprendre que ça peut paraître difficile, mais dans les grandes villes, la plupart des gens n'utilisent pas la voiture puisque ça prend plus de temps qu'autre chose.
Et même non plus de voiture, hein, carrément.
Oui, c'est vrai.
Il y en a beaucoup, ils se déplacent uniquement avec les transports en commun parce qu'ils sont bien faits et que généralement, c'est une tannée en voiture.
Il faudrait quand même continuer sur ce chemin avec les mobilités.
Après, je trouve, ce qui est bizarre dans les villes résilientes, c'est l'idée de moderniser tout ce qui est services publics comme les canalisations pour éviter les pertes. Ça passe aussi par améliorer le chemin que peut faire l'électricité, tout ça. Forcément, effectivement, ouais, pour tout ce qui est mobilité, vous en avez très bien parlé. Et dans des petites villes, ce serait beaucoup plus compliqué que dans des grandes villes où il y a déjà les infrastructures nécessaires qu'il faudrait peut-être moderniser dans certains cas. Mais effectivement, ce type de ville. Mais je trouve quand même ça pas mal de l'idée où il faut moderniser tout ce qui est canalisation et tout ce qui est service public pour éviter plus de pertes.
Oui, alors sur ça, je suis d'accord, mais par rapport à ce que tu disais juste avant, Jeanne, j'ai peur, par exemple, mettons, si on reprend ton exemple sur les grandes villes, en se disant, voilà, comme on disait, dans les grandes villes, souvent, les personnes n'ont plus besoin de voiture, voire n'ont même pas de voiture. Mais c'est vrai que si on parle à l'intérieur de la ville, oui, mais dans ce cas-là, si les personnes veulent, je ne sais pas, souvent, si on veut partir à la montagne, faire une randonnée, etc., c'est vrai qu'on va avoir tendance à se déplacer en voiture, et que dans une ville résiliente comme ça, s'il n'y a plus du tout de voitures et qu'on n'a même pas une alternative, par exemple un train qui va, je ne sais pas, peut-être rouler à l'hydrogène, qui sera extrêmement rapide, etc. J'ai peur que du coup, dans des situations comme ça, on n'ait tout simplement pas d'alternative.
C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, les solutions alternatives qui sont quand même le train, voire l'avion, mais environnementalement parlant, c'est pas forcément la bonne solution. Le train, c'est quand même devenu extrêmement cher et puis on peut pas aller de partout. Il y a des grandes lignes, c'est vrai, mais c'est vrai que pour aller par exemple en montagne ou dans des endroits un peu plus perdus, qui sont un peu plus à la campagne, c'est parfaitement impossible.
C'est ça. Donc je pense que c'est cette dimension un petit peu de l'innovation qu'il faudrait repenser dans les villes résilientes.
Après, là, on parle des villes résilientes, on parle pas forcément d'un pays résilient.
Oui, donc, c'est vrai. Qu'après, il faut voir l'échelle à laquelle...
On n'est pas sur l'interdiction de la voiture au niveau national, quoi.
C'est vrai.
Oui. Et en plus, par contre, moi, de ce que je comprends, les villes résilientes, elles sont façonnées de manière à être aptes à répondre aux crises, que ce soit économiques, sanitaires ou des catastrophes naturelles. Mais du coup, moi, je serais plus d'avis qu'on mette toutes nos ressources sur le fait qu'il n'y ait pas de crise, plutôt que sur comment les gérer.
Après, j'ai peur que ça fasse un petit peu comme ce qu'on a connu, en se disant, bon, il n'y aura jamais de crise, le pays va bien, tout va comme sur des roulettes. Pas anticiper les risques et de ce fait, pas déployer assez de moyens nécessaires pour les anticiper. Et que le jour où ça nous tombe dessus, ce soit un gros choc et que le pays mette du temps, beaucoup de temps à s'en remettre.
Ouais, c'est assez dangereux de se dire qu'on peut tout anticiper et de ne pas faire de trucs en conséquence, dans le sens où si jamais une catastrophe arrive, on n'est rien pour la gérer.
C'est ça. Je pense
que c'est plus intéressant de réussir à...
C'est pas faux.
Et que... ouais. Voilà.
Et enfin, le dernier type de ville dont nous avons déjà un peu parlé sont les villes durables. Ces villes sont conçues pour minimiser leur impact environnemental et maximiser leur résilience au changement climatique. Elles mettent l'accent sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables avec une gestion efficace des déchets et la promotion de modes de vie durables. En commençant par la mobilité verte, les villes durables seront équipées de transports en commun, vélos, marches et véhicules électriques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la congestion routière. Elles peuvent également mettre en place des zones piétonnes et des pistes cyclables pour promouvoir la marche et le vélo.
Et ces villes seront également engagées dans l'efficacité énergétique avec des bâtiments éco-énergétiques qui utilisent des matériaux durables et recyclables ainsi que des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation efficaces. Elles encouragent également l'utilisation des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, forcément. Dans la même lignée, ces villes feront particulièrement attention à leur gestion des déchets. Elles auront des systèmes de gestion des déchets efficaces pour réduire la quantité des déchets produits et favoriser le recyclage et la réutilisation. Elles peuvent également mettre en place des programmes de compostage pour réduire la quantité de déchets envoyés en décharge.
Les villes durables seront aussi dotées d'une multitude d'espaces verts accessibles pour les résidents, ce qui peut inclure des parcs, des jardins communautaires et des toits verts. Ces espaces pourront aider à améliorer la qualité de l'air, mais également offrir des lieux de détente pour les habitants. Et enfin, les villes durables encourageront la participation citoyenne dans la planification et la gestion de la ville. Les résidents pourront être impliqués dans la mise en place de projets de développement durable, la création d'espaces verts et la promotion de modes de transport durables. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de ces villes durables ? Grosse révolution ou pas spécialement ?
Moi, je trouve que c'est un peu utopique, en vrai, de se dire d'avoir une ville avec énormément d'espaces verts comme ça. Et surtout, ça voudrait dire que c'est une ville qui va s'étendre et s'étendre, alors qu'on est plus sur l'inverse, en fait. Dans les villes actuelles, on cherche pas forcément à les étendre le plus possible. On cherche plus à concentrer les affaires, enfin, concentrer tous les services au même endroit. Alors que là, c'est-à-dire qu'on aurait plus de parcs, plus d'allées avec des arbres qui couvriraient le tout. Donc, je sais pas, ça me semble... Après l'idée d'avoir des transports en commun beaucoup plus développés, je suis tout à fait d'accord. C'est important de développer le vélo, le métro, tout ça. Mais sur tout ce qui est beaucoup plus de verdure dans la ville, je suis un peu plus mitigé sur ce concept-là.
Oui, alors personnellement, oui, je te rejoins un petit peu, Félix. Et c'est surtout que je ne vois pas vraiment la différence entre là, les villes durables qu'on vient de présenter et les villes résilientes qu'on a présentées juste avant. Dans le sens où pour moi, c'est vraiment... tout est misé sur le développement durable et la question environnementale sans vraiment essayer de trouver de compromis, on va dire, ou pour équilibrer la balance en se disant, on va tout miser sur l'environnemental, mais en essayant de produire quand même des technologies et des innovations qui peuvent être durables, parce que les deux, d'après moi, ne sont pas forcément opposés. Et du coup, c'est un peu ça, c'est l'envers de la balance, on va dire, pour contrebalancer le fait d'enlever toutes les technologies.
Alors, moi, quand même, ce que j'avais compris, c'est que les villes résilientes, elles se concentrent sur la préparation et la réponse au choc et au stress, alors que les villes durables, elles se concentrent vraiment sur la gestion des ressources et la réduction de l'impact environnemental à long terme. Mais c'est vrai que quand même, les deux concepts, ils sont assez complémentaires et ils visent à créer des villes, en gros, plus résilientes, qui soient durables et agréables à vivre pour les résidents. Dans tous les cas, je pense que les villes durables sont celles que tout le monde est en train de viser quand même. Tu as dit que tu pensais que c'était plutôt utopique, mais c'est vrai qu'en ce moment, au vu de ce qui passe dans les news, de ce qu'on apprend à l'école, de tout ça, je pense que c'est plutôt les villes qu'on est en train de construire aujourd'hui qui sont censées être plus durables, mais plutôt dans le sens où on essaye d'optimiser certaines choses, certains produits, certaines ressources et certains modes de vie plutôt que d'étendre des espaces verts.
Je suis assez... Oui, effectivement, on est plus dans la recherche de production plutôt que dans l'écologique, quoi, forcément. Donc, effectivement.
Donc les différents types de villes qu'on vient de présenter ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent évidemment se chevaucher ou se compléter pour créer des villes du futur qui seront plus résilientes, plus durables, plus inclusives et autres. Mais donc si vous pouviez un petit peu choisir à la carte les caractéristiques que vous donneriez à votre ville du futur, ce seraient lesquelles ?
Alors moi j'imagine bien un mix de toutes ces villes puisqu'on a vu que c'était plutôt des choses que positives de partout. Mais particulièrement une ville intelligente, même si c'est vrai que le pari qu'on trouve des solutions technologiques pour tout et qu'on arrive à les mettre en place, il est quand même risqué. Et dans ce mix, je pense que les autres parties importantes seront surtout la durabilité et l'inclusivité, puisque c'est quelque chose dont la société a besoin. Mais encore une fois, je pense qu'il faut d'abord changer comment les gens pensent la ville et leur mode de vie plutôt que avant, en tout cas, de pouvoir réussir à changer les villes.
Ouais, c'est vrai que je pense que niveau écologie, c'est sûr qu'on va, on va aller dedans, hein, dans toutes les villes, parce que déjà les entreprises sont poussées à le faire et je pense que les citoyens adhèrent surtout à ces valeurs-là. Après, par rapport à toutes les villes qu'on a vues, je ne sais pas, moi, si par exemple la ville résiliente, est-ce que c'est la ville du futur avec toutes les, tout ce qu'il y a à prévoir, ça, j'en suis moins convaincu. Après, tous nos avis divergent, hein, parce qu'on l'a vu, hein, par exemple, sur les nouveaux immeubles ou ce genre de choses. Rien n'est... Personne n'a le même avis, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, forcément, l'écologie fera partie de la ville du futur, forcément. Moi, j'aimerais... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est aussi avoir de la ville intelligente, avec toutes les nouvelles technologies qui seront là pour répondre aux nouveaux défis et aux nouveaux besoins. Mais... ouais, forcément, l'écologie sera une énorme part de ces villes-là, en développant fortement les transports en commun et en réduisant fortement les émissions de CO2, quoi.
Ouais, moi aussi. Bah, du coup, je pense qu'on se rejoint un petit peu tous sur ça. Et moi, ça serait vraiment un complément entre les villes résilientes qui vont être durables et les villes intelligentes, en se disant, voilà, le nouveau challenge, là, ce sera de créer des innovations et des technologies qui peuvent être durables et qui sont compatibles avec ça. Et en revanche, je pense que tous les éléments qui ont été cités dans la présentation de la ville inclusive, c'est-à-dire que ce soit inclusif pour les différentes cultures, les différentes croyances et pareil pour les différentes les personnes à mobilité réduite, etc. Je pense que ça, c'est des éléments qui sont pas négligeables, mais qui du coup seront pas dans l'ADN même d'une ville, mais que ce sera une fois que la ville est créée, que la ville tourne déjà d'elle-même, de venir rajouter et changer le paysage pour permettre tout simplement à tout le monde, peu importe le profil, d'y accéder tout simplement.
Maintenant, nous allons passer à une autre rubrique. On va parler des exemples concrets de villes dites novatrices du futur, mais qui ont déjà ou du moins bientôt vu le jour.
Et on commence par la première ville dite du futur, nommée The Line, qui est imaginée par l'entreprise Neom. Cette ville a été lancée par le prince Mohammed Ben Salman 3 mois après son arrivée au pouvoir. Cette entreprise a donc eu comme projet urbanistique The Line, largement promu depuis janvier 2021 par l'Arabie Saoudite. Il est en préparation depuis plusieurs années, intégré à une vaste campagne de construction lancée en 2017 dans toute la région de Tabouk, qui est dans le nord-ouest du pays. Alors par contre, il semble aussi futuriste qu'incertain. Mais pourtant, hein, si on regarde notamment des vidéos de Google Earth, la progression des travaux, elle est bien réelle.
Alors oui, clairement, il faut imaginer une cité qui est construite en plein milieu du désert. Donc tout ce dont on a besoin se trouve à moins de 5 minutes à pied. Pour s'y rendre, il n'y a qu'à déambuler au sein d'un immeuble ultra moderne d'une longueur inouïe, à peu près l'équivalent de la distance Paris-Honfleur à pied. Et à l'intérieur va pousser une végétation luxuriante, des drones et des navettes autonomes y circuleront. Et enfin, le quotidien de la gestion économique à la police sera assuré par des algorithmes dotés d'une intelligence artificielle. Donc, The Line vise zéro délinquance grâce à des technologies les plus avancées, avec notamment la reconnaissance faciale, la police prédictive ou encore des données biométriques.
L'autre but est que The Line utilise des énergies 100% renouvelables et que 95% des terres seront préservées pour la nature. Ça signifie aucune route, aucune voiture, aucune émission. Contrairement aux villes traditionnelles, la santé et le bien-être des personnes passeront avant les transports et les infrastructures. Elle aurait cependant une forme vraiment particulière avec seulement 200 mètres de large, mais 170 km de long et 500 mètres de haut au-dessus du niveau de la mer. À terme, The Line pourrait accueillir 9 millions de personnes et sera construite sur une superficie de seulement 34 km². Elle est modeste et l'empreinte de l'infrastructure permettra d'améliorer l'efficacité des systèmes urbains comme jamais auparavant. Le climat idéal toute l'année y régnerait apparemment et permettra à ses habitants de profiter de la nature environnante. En plus, il y aura un train à grande vitesse qui parcourt le trajet de bout en bout en seulement 20 minutes. Aujourd'hui, Neom inonde les réseaux sociaux de publicité pour vendre sa vision du futur. Vous avez déjà peut-être même vu une de leurs vidéos. Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors moi, j'ai vu des vidéos passer et c'est vrai qu'on dirait tout simplement un grand couloir en plein milieu de nulle part. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est, voilà, les parois du couloir sont noires. Et puis donc apparemment à l'intérieur on pourrait y vivre, et c'est vrai que moi je suis pas du tout convaincue par le projet, parce que c'est peut-être un peu un aspect claustrophobe qui sommeille en moi, mais c'est vrai que de voir une structure aussi peu large mais très très haute en plein milieu du désert, je me dis qu'en en pleine saison de sécheresse et de forte chaleur, ça va être invivable, irrespirable. Je vois pas du tout comment cette ville pourrait, voilà, respirer. Comment éviter une chaleur extrême à l'intérieur, et comment tout simplement permettre un courant d'air ou un petit vent frais, quoi, à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je suis absolument pas convaincue par le projet, moi.
Alors pour ça, je suis complètement d'accord avec toi, Luna, et on dirait presque qu'on peut pas en sortir, qu'une fois dedans, ouais, on est complètement isolé du monde, et que c'est comme si en fait il y avait une communauté qui fait partie d'un autre monde qui s'y installe. Et je pense aussi qu'en fait, 200 mètres de large, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, même s'ils auront toutes leurs nécessités en soi autour d'eux, je trouve ça assez triste qu'ils puissent pas en fait aller se balader et découvrir des endroits en toute discrétion ou faire des découvertes.
Ça a l'air hyper fermé, ouais, en fait. Puis on se dit, en plein milieu du désert, surtout avec la température qui doit régner...
Je vois pas trop comment ça va marcher. Hein.
Ça doit faire hyper chaud. Après, je pense pas que le projet soit vraiment irréalisable, parce que si on prend une ville comme Dubaï, par exemple, où quand on est dans le désert, on se retourne et on voit que des gratte-ciels, on se dit, non mais c'est pas possible. Hein. On se dit, c'est New York, juste derrière nous, quoi.
Mm-hmm. Ouais, non mais clairement. Mais pour moi justement, vous parlez des chaleurs étouffantes et tout, mais... Enfin, ils sont pas bêtes, c'est des ingénieurs et tout, ils ont forcément prévu le coup. Il y aura forcément une énorme clim au plafond, je sais pas, un truc ridiculement gros et extrêmement gourmand d'énergie. Mais vu qu'il y aura des énergies vertes dedans, bah, ça ira. Mais moi, ça m'angoisse un peu aussi, dans le sens où je vois pas trop ça comme une ville du futur, je vois ça comme une sorte d'énorme bunker qui pourrait permettre de survivre à une sorte d'apocalypse future ou quoi. Et ouais, c'est un peu ça, genre une communauté fermée où personne se parle, enfin personne parle au monde extérieur, tout ça, c'est un peu flippant. Alors, vous êtes toujours sur Graphite et vous êtes sur les icônes d'innovation. Et on va maintenant parler de la Woven City au Japon. On change maintenant d'exemple pour y parvenir. Donc, au pied du mont Fuji, à 100 km au sud-ouest de Tokyo, la Smart City de Toyota doit prochainement voir le jour. À l'inverse de l'exemple précédent, la Woven City n'a donc pas encore vu le jour. L'objectif principal, faire sortir de terre une ville zéro carbone, hyper connectée, conçue comme un laboratoire vivant, destiné à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Elle permet notamment à l'entreprise de consolider sa transition de constructeur automobile à entreprise de mobilité.
Comme vous l'avez compris, il s'agit ici d'une ville prototype où tous les écosystèmes seront interconnectés. Fin février 2021 a été officiellement posée la première pierre de Woven City sur l'ancien parc de stockage des véhicules Toyota, adjacent au site de production qui est désormais fermé. Le président du projet s'est exprimé le jour du début des constructions en expliquant « Les thèmes de Woven City sont et resteront une ville à visage humain, un laboratoire vivant et en constante évolution. Avec l'aide de nos partenaires du projet, nous allons relever ce défi, créer un avenir où des habitants d'origines diverses pourront vivre heureux ensemble. » L'infrastructure de Woven City vise à créer un cadre qui favorisera l'émergence d'innovations susceptibles de résoudre des problèmes sociétaux à mesure de leur apparition.
Et si Woven City est un modèle de ville du futur, ces bâtiments s'inspirent toutefois de l'architecture japonaise traditionnelle. Les matériaux comme le bois seront ainsi privilégiés, limitant l'empreinte carbone. De larges baies vitrées apportent la lumière naturelle dans les habitations, qui peuvent profiter de la vue sur le mont Fuji. La flore est également omniprésente avec une multitude d'espèces dans une multitude de jardins. La ville met également à profit toutes les avancées technologiques, notamment en matière de production d'énergie autonome. Les toits seront ainsi recouverts de panneaux photovoltaïques visant à produire de l'énergie solaire, en plus de l'énergie générée par des piles à hydrogène qui se trouveront sous terre.
Et dans les habitations, la robotique sera omniprésente. Donc fini les corvées de ménage et les courses, ce seront des frigos connectés qui vont communiquer eux-mêmes leur liste de courses aux épiceries pour un approvisionnement à flux tendu permettant de limiter tout gaspillage. La ville se veut aussi à la pointe de la recherche sur l'intelligence artificielle spécialisée dans l'assistance aux personnes âgées, avec notamment une surveillance en temps réel de la santé des résidents.
Alors, dans la ville, il y a trois sortes de rues qui viendront s'entrelacer. Celles réservées aux voitures, bah, notamment aux véhicules autonomes 100% électriques ou roulant à l'hydrogène. Une autre pour les piétons et la troisième aux personnes à vélo ou en trottinette ou toute autre forme de mobilité douce. De plus, une route souterraine servira au transport des marchandises.
D'ailleurs, le PDG de Toyota, Akio Toyoda, se confie sur le projet. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'en tant que société globale, nous devons nous rassembler pour guérir, grandir, apprendre et créer de nouvelles possibilités pour notre avenir collectif. Je me rends compte que notre rêve est ambitieux. Je sais qu'il y a des sceptiques, certains travaillent même pour Toyota. Mais je sais aussi qu'il y a des croyants, des gens qui veulent faire une vraie différence dans notre façon de vivre, dans la façon dont nous prenons soin de notre planète, dans la façon dont nous prenons soin les soins des autres.
Alors, la communauté débuterait au début avec 360 résidents environ, principalement des personnes âgées, des familles avec des jeunes enfants et des inventaires. À terme, elle devrait compter plus de 2000 habitants, tous employés de Toyota. On a donc ici une ville qui, certes, doit permettre l'habitation d'une population, mais dont le concept est très axé innovation.
Donc le troisième et dernier exemple dont nous allons parler est situé à 100 km au sud-ouest de Beijing en Chine. C'est plus officiellement appelé le nouveau district de Xiong'an. Il s'agit d'un projet visant à faire une ville verte et bas carbone grâce à la biomasse, la géothermie et le solaire. Et un modèle pour le développement durable urbain à horizon 2035 pour les villes du pays et de l'étranger.
On prévoit 6 millions d'habitants en 2035. Selon le média chinois, il s'agit d'une autre nouvelle zone d'une importance nationale, après la zone économique spéciale de Shenzhen. Le président chinois décrit ce projet comme une cité connectée, censée symboliser la marche du pays vers une nouvelle étape, plus verte et centrée sur le développement domestique plutôt que sur l'exportation.
À Xiong'an, tout devient numérique grâce à un développement de haute qualité qui s'appuie sur l'innovation scientifique et technologique. Les bus sans conducteur, qui font actuellement l'objet d'essais, en sont un exemple. Pour améliorer l'efficacité du réseau de transport, les véhicules peuvent non seulement reconnaître les feux de circulation et les panneaux de signalisation, mais aussi réduire leur vitesse ou s'arrêter en cas d'obstacle. La ville compte également 153 km de routes numériques, où des capteurs installés sur les lampadaires peuvent surveiller le nombre et la vitesse des véhicules afin de réduire les embouteillages.
La construction de la ville intelligente a servi d'exemple pour la planification et la gestion des villes du futur. C'est ce qu'a déclaré Wang Mengyong, le président de la China Highway and Transportation Society. C'est la société chinoise des autoroutes et des transports. Au cours de son voyage, le président chinois a souligné sa vision d'un terrain fertile pour l'innovation et les entreprises. Le président chinois a également appelé à des politiques et des mesures pionnières en matière de réforme et d'ouverture, ainsi qu'à des projets d'innovation, d'essais et de démonstration tournés vers l'avenir dans ce domaine. Depuis que la Chine a annoncé son intention de créer la ville en 2017, la nouvelle zone a réalisé plus de 510 milliards de yuan d'investissement. Plus précisément, les entreprises publiques chinoises ont créé plus de 140 filiales et succursales axées sur des industries telles que les technologies de l'information, les sciences de la vie moderne, la biotechnologie et les nouveaux matériaux, entre autres.
Xiong'an est une ville jeune avec un grand potentiel, déclare Zhao Kan, qui est un employé de Xiong'an Urban Construction et Compagnie. Cet ancien habitant de Pékin a décidé de s'installer à Xiong'an avec sa femme. Zhao fait partie des centaines de milliers de jeunes talents attirés par la ville pour ses politiques favorables, ses services publics conviviaux et son cadre de vie vert. Au cours de son voyage de mercredi, le président Xi Jinping a visité une communauté résidentielle qui abrite plus de 5000 résidents relocalisés et a souligné l'importance de veiller à ce que les résidents relocalisés vivent bien et aient des emplois satisfaisants. Promouvoir l'égalité d'accès aux services publics de base est essentiel pour construire une ville de peuple qui soit à la fois agréable à vivre et propice aux affaires, a souligné Xi Jinping.
Selon les experts, le développement de la nouvelle zone de Xiong'an est un paradigme de la modernisation de la Chine qui revêt une importance historique. Il faut d'abord un plan complet et scientifique, suivi d'un système national de soutien aux initiatives innovantes. La ville est née pour être une base de percée technologique locale, a déclaré Kong Yi, doyen de l'école de marxisme de l'Université des Finances et de l'économie de Tianjin. Elle reflète non seulement les racines de la puissance économique de la Chine, mais elle jouera également un rôle exemplaire dans le monde en montrant que le mode de modernisation chinois n'est pas uniquement axé sur la croissance économique, mais qu'il s'agit plutôt d'un modèle de développement global. On peut accéder à cette ville depuis Beijing en 50 minutes en train, contre 10 heures en voiture.
Donc on arrive maintenant à la fin de cette émission. Donc globalement, un petit peu ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous une vision et une idée différente de ce que pourrait être notre ville du futur, que ce soit durabilité, innovation, inclusivité. Et chacun est un petit peu en mesure d'imaginer ce qu'il veut. Et il faut tout simplement essayer de voir quel modèle et quelles caractéristiques seraient pertinentes afin d'avoir une ville la plus viable possible, et autant pour ses habitants que pour son environnement. Et par exemple, en école d'ingénieur, on forme des ingénieurs en urbanisme et donc en génie urbain. Et c'est vrai que pour moi-même, être dans cette filière, les matières qu'on nous enseigne sont très axées développement durable, résilience, etc. Mais c'est vrai que le côté technologie qui soit peut-être low-tech et qui soit durable et pas forcément catastrophique pour l'environnement, j'ai l'impression que c'est un aspect qui manque un petit peu et qui du coup pourrait tout simplement enrichir la palette d'outils que peut avoir un ingénieur urbaniste dans le futur, parce que c'est tout simplement eux qui vont être à la racine de la construction de ce qu'on appelle depuis une heure les villes du futur. Et donc je pense que ça serait important quand même de développer cet aspect-là et cette idée-là au sein d'une branche aussi importante que le génie urbain, tout simplement.
Vous venez d'écouter les échos de l'innovation avec Luna, Jeanne, Félix et moi-même. Et ben on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt sur Graphite.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'être restés avec nous pendant cette émission. Et voilà, à très bientôt.